Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, petites oreilles buissonnières, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour crapahuter, trotter, galoper, grimper, virevolter et voler de nos plus belles ailes parmi les animaux d'ici et d'ailleurs, de Tombouctou à Honfleur, pour une petite visite de nos zoologiques frères et sœurs. Mais attention, ne croyez pas passer votre heure pour une tranquille petite balade au parc zoologique à lancer des cacahuètes en échange d'une galipette. Non, non. Aujourd'hui, on se creuse les méninges entre crocodiles, humains, poissons et singes pour se poser la question suivante. Pour toi, l'homme est-il un animal? Pas d'inquiétude ni lassitude. À défaut de zoo, un surprenant voyage à pied et à pattes, à plumes et à poils, à bec et à ongles, en compagnie d'un drôle d'animal, une nouvelle espèce du genre terrien, un cinéaste hors du commun qui filme les animaux comme les humains à travers des films métis entre fiction et documentaire. J'ai nommé Silver Petit, réalisateur de cinéma. Alors, l'homme est-il un animal?
Bah, ça dépend de où on regarde, parce que par exemple, si... C'est comme si t'étais un zèbre. Pour nous, c'est nous les animaux. Et pour nous, c'est eux les animaux.
Moi, je dis qu'on peut être des animaux parce que, ce qui paraît, l'homme, c'était un singe avant.
Pour moi, on est des animaux parce qu'on n'est pas des pierres ni des plantes.
On est tous des animaux, mais aucun animal est pareil. Par exemple, le chat, il va parfois ressembler au lapin.
Ben, pour moi, on est des animaux, mais plus évolués. Parce qu'on va pas se mettre à quatre pattes et après lécher le lait. Hein.
Enfin, comme on dit au début, c'est pareil. On a quatre pieds. Enfin, on a quatre. On a deux mains et deux pieds. On a un nez, on a deux yeux, on a une bouche, on a deux oreilles. Et ben, c'est sûr, l'humain il a évolué.
Ben moi, ça, je trouve que ça dépend des moments qu'on n'est pas tout. Des fois, on est des animaux et des fois, on n'est pas d'asimaux. Des animaux, des fois, on se conduit, on mange n'importe comment. On dit, tu manges comme un animal. Mais des fois, on est très distingué, on est très évolué. Alors, on dit, ah, bravo, on va pas te dire, tu te conduis comme un humain, mais t'es évolué, t'as plus l'impression que t'es un animal.
Et avant, par exemple, on était des animaux et force, on s'évolue, on marche, on s'habille.
Par exemple, les animaux, eux, ils vont pas aller à l'école, par exemple.
Bah, enfin, on a appris une langue, et puis eux, ils parlent pas normalement.
Je trouve pas que les animaux, ils ont pas de langage. Ils ont chacun leur langage. Par exemple, les singes, ils font des petits bruits, ils poussent des cris. Il y a plein d'animaux qui poussent des cris aussi, mais des fois, le dauphin aussi, sous l'eau, il a une onde qui permet de parler à ses camarades. On croit qu'il a pas de... qui parle pas à ses camarades en faisant du bruit, mais il a une onde en fait. Et donc tous les animaux, ils ont leur langage.
On parle une langue, mais tous les animaux parlent aussi leur langue. Par exemple, le chien aboie, ben, par rapport à notre chien, il va dire quelque chose et l'autre chien va comprendre. Donc on est des animaux, mais différents, comme tous les autres animaux sont différents.
Ben, c'est vrai, on a évolué, mais en même temps, il y a des animaux qui ont beaucoup évolué. Du genre, les fourmis, eux, ils ont fait comme nous, dans certains pays, des rois et des reines. Enfin, une reine. Ils ont inventé même des gardes. Voilà.
Et on a tous évolué, mais pas de la même façon. Et même si on voit pas que les animaux ont évolué, peut-être qu'ils ont évolué, on sait pas trop. Mais il y a les singes. Il y a les singes avant peut-être qui pouvaient pas prendre des petits bouts de bois pour creuser un trou et manger ce qu'il y avait dans le trou, et ben maintenant ils en sont peut-être capables.
Mais ils ont évolué d'une certaine façon pour leurs besoins, enfin voilà.
D'abord, chaque animal a sa personnalité. Et nos sciences, on a notre personnalité.
Alors en fait, moi, je dis que on est certains animaux, parce qu'on n'est pas, on est peut-être des singes. Enfin, premier homme, c'était un singe, mais on ne peut pas être des oiseaux. On n'a pas d'ailes, on ne peut pas voler, et on n'a pas de bec non plus.
Aussi, les animaux pour nous, y a certains animaux, pour nous, c'est des domestiques. Et peut-être que eux, dans leur tête, c'est nous, leurs domestiques. Après, ça, on ne sait pas. Faudrait vraiment être spécialiste. Et voilà.
Par exemple, un animal, quand il va dire, il va penser peut-être que eux, comme on dit nous, qu'on a évolué, que sa race a évolué. Par exemple, ils ne font pas exactement la même chose que nous, mais ils ont évolué à leur façon. Et ils ont peut-être évolué mieux que nous parce que nous, on a fabriqué plein de choses qui polluent et qui polluent pas d'ailleurs, mais quand même, à cause de nous, il y a eu le réchauffement climatique. Mais si on vivait comme tous les animaux autres, et ben, je pense qu'il n'aurait pas été. Ça peut paraître bizarre quand on nous dit l'homme, c'est une sorte d'animal comme les chiens et les chats en sont, mais c'est la vérité.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y matar a los otros.
las vidas y otros toros, y mataremos otros.
Sur 99.2, la corrida de Francis Cabrel pour notre émission Les Oreilles Buissonnières, consacrée aujourd'hui au rapport que l'homme entretient avec l'animal. N'avez-vous jamais vous aussi joué au taureau et au toréador muni d'un bout de torchon rouge? Moi, je me pose toujours la question du meilleur rôle, la victime ou le bourreau? Bref, moi, il y a un jeu que je préfère, c'est 1, 2, 3 soleils, parce que quand tu es pris sur le vif en train de bouger, on te plante pas un couteau dans le dos, mais on te fait reculer de 2 pas de fourmi, de 4 pas d'éléphant, de 8 pas de cheval ou de 10 sauts de grenouille, avant de finir au poulailler. C'est plus sympa, non? Bref, alors pour vous, Silver Petit, l'homme est-il un animal?
D'abord, bonjour.
Bonjour.
Et merci de m'avoir invité pour cette émission. Avant tout, je voulais dire, c'était une excellente question, et une question qui a longtemps été hérétique. Il y a une période, vous aurez posé cette question, vous serez retrouvé sur un bûcher, certainement.
Vous aurez mis un couteau dans le dos.
Un couteau dans le dos, peut-être. Et alors, pourquoi cette question a posé tant de problèmes dans l'histoire? C'est que c'est certainement une question qui en cache plein d'autres, notamment la fameuse trilogie des questions existentielles, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Et parce que c'est une question qui directement va toucher notre identité, nos représentations et surtout la représentation que nous faisons de nous-mêmes. Alors moi surtout j'ai été très étonné par les réponses apportées par les enfants, qui sont des réponses d'une grande complexité, d'une grande richesse, où quasiment le sujet est intégralement touché. Et d'abord il y a un premier temps, il y a une spontanéité comme ça, quelque chose de très des premières réponses qui sont très fortes, où on sent que il y a le rapport à la différence n'est pas quelque chose de problématique pour eux, la notion de pyramide, de supériorité, comme on peut l'avoir souvent dans nos sociétés, n'est pas forcément non plus très présente dans leurs réponses. Il y a déjà un décentrement très fort, le fait d'accepter de rentrer dans un autre point de vue. Et voilà. Et donc après, il y a un deuxième, il y a un autre type de réponse chez ces enfants, où on sent une espèce de, on va dire de poids de la représentation de notre société, un petit peu des représentations dominantes d'aujourd'hui. Et on voit arriver des notions comme oui, mais nous sommes différents, nous sommes plus évolués, voilà. Donc moi de mon côté, je vais essayer de compléter modestement ces réponses qui sont déjà, moi je trouve, très à la hauteur, et je vais répondre à la question de la manière suivante, c'est-à-dire aussi d'une manière subjective, c'est-à-dire pour moi, puisqu'on va le voir, la subjectivité est une notion très importante dans l'approche de cette question, et je vais m'appuyer sur une discipline un petit peu particulière qui s'appelle l'éthologie pour m'aider à répondre.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce mot un peu barbare, que l'éthologie, nous recontextualiser son histoire, d'où ça vient et puis qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, l'éthologie, en fait, étymologiquement, c'est éthos, ce sont les mœurs, et la logie, donc, c'est l'étude, donc, c'est l'étude des mœurs, et plus communément, on dit que c'est l'étude du comportement animal, et qui a été appliquée aussi aux comportements humains. Alors, l'approche des mœurs, de regarder comment vivent comment vit le vivant depuis toujours, les hommes l'ont regardé. Il suffit de voir, un chasseur a besoin d'aller de savoir comment vit un animal dans la nature pour pouvoir le chasser. Un paysan, un éleveur a besoin de connaître ces animaux pour les élever. Mais notre culture en Occident, parce que c'est important de placer le contexte, c'est-à-dire que nous allons parler surtout des idées dans le monde occidental dans lequel nous évoluons, nous avons un héritage culturel qui est très très lourd et qui a installé sur plusieurs siècles une séparation très forte entre l'homme et l'animal. Et cette séparation, en fait, je suis venu avec un petit bout de texte d'un livre, certainement le livre le plus connu au monde, qui est assez représentatif de, moi j'aimerais bien dire, de l'embourbement dans lequel les idées se sont installées pendant plusieurs siècles, et qui, au début du 20e siècle, certains philosophes et éthologues en particulier essayent de sortir de cet embourbement. Et vous allez reconnaître ce texte très très vite, je vous lis un extrait. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Non, non, ce n'est pas une émission religieuse, pas d'inquiétude, nous sommes toujours sur les oreilles buissonnières.
Alors voilà, ce texte en fait, qui est donc, on le sait, c'est la Bible, c'est la Genèse, c'est tout à fait les toutes premières lignes de la Bible, est un texte fondateur de nos sociétés et de nos représentations, et on a mis des années, des siècles pour sortir de cette dichotomie qui sépare l'homme et l'animal.
On le voit toujours, puisqu'on dit « ne mange pas comme un petit animal, ne te traîne pas comme un petit animal », elle le dit d'ailleurs, la
petite fille
tout à
l'heure. Exactement, c'est ce que les petites filles disent. Et donc, revenons aux origines, pour raconter un petit peu ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire de replacer l'éthologie dans l'histoire. Ces questions-là sont des grandes questions qui, déjà au IVe siècle, donc chez des philosophes un peu connus, qui sont Platon et Diogène, ils se posaient cette question, mais ils se la posaient à l'envers de ce que vous avez proposé aux enfants. C'est-à-dire qu'il ne posait pas la question « l'homme est-il un animal ?» mais il posait la question « quelle est la différence qui fait que l'homme n'est pas un animal ?» C'était ça la question. Et pendant des siècles, des philosophes, des sociologues, des scientifiques se sont creusés les ciboulots pour savoir ce qui faisait que l'homme n'était pas un animal. La question était à l'envers. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, par exemple, Platon disait « le propre de l'homme, c'est d'être un bipède à la peau nue ». Alors Diogène, il est parti de l'hémicycle où on discutait de ça. Il est revenu avec un poulet qu'il avait plumé. Il l'a balancé au milieu de l'assemblée en disant « voilà l'homme de Platon ». Et donc là, ça a commencé. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des gens qui n'étaient pas d'accord. Après, tout doucement, en fait, il y a eu des choses comme ça. On a dit « l'homme, c'est l'outil. L'homme, c'est le langage. L'homme, c'est la société. L'homme, c'est le rire même ». Et chaque fois, on cherchait en fait des choses qui étaient propres à l'homme. On a cherché le propre de l'homme, sans chercher à ce qu'il y ait un propre de, par exemple, du chat. Alors, il y a un grand philosophe et scientifique qui s'appelait Descartes qui a contribué à renforcer ces idées-là en expliquant que l'animal était en donnant une idée de l'animal machine. L'animal était machine, il ne réagissait qu'à des réflexes. On pince un animal, il va crier, mais c'est pas qu'il a mal. Il n'a pas d'émotion. C'est juste que comme on appuie sur un bouton qui fait qu'il crie.
Comme un petit robot, quoi.
Comme un petit robot, exactement. Voilà. Et donc ça a duré pendant des siècles. C'est jusqu'à nos jours, jusqu'au début du 20e siècle, on était persuadé que l'homme était un animal machine. Il y a un moment donné, il y a trois éthologues, Conrad Lorenz, Nicolas Tinbergen et Karl von Frisch, qui ont débarqué, qui d'ailleurs ont eu un prix Nobel, tous les trois ensemble, et qui ont arrêté, si vous voulez, de poser des questions d'hommes aux animaux.
C'est parce qu'en fait, on mettait des filtres humains sur des comportements d'animaux.
Tout à fait. On mettait des filtres humains sur des comportements d'animaux et c'est la première fois où on a eu un décentrement. On a changé de point de vue. Voilà. Et ça, c'est la grande révolution. Et on considère que l'éthologie démarre à ce moment-là.
On a sorti nos yeux de notre propre tête, on les a mis de l'autre côté. On s'est regardé nous-mêmes.
On a essayé de les mettre de l'autre côté. Et du coup, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des choses formidables. Comme par exemple, le langage chez les abeilles, qui a été découvert donc par Karl von Frisch, où on s'est rendu compte que les abeilles, elles avaient un langage. Et donc, elles étaient capables de faire de conceptualiser une abeille qui rentre à la ruche, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va expliquer par un système par une danse, en forme de 8, elle va expliquer la direction de l'endroit, la direction d'où se trouve la fleur qu'elle a trouvée, et la distance, et la nature du nectar qu'elle a découvert. Et elle va l'expliquer à toute la colonie, qui du coup, les autres abeilles vont pouvoir sortir de la ruche, s'orienter par rapport au soleil, partir complètement en direction de la fleur qui a été trouvée, ne pas dépasser sur 3, 40, 50 km, pile arriver à la bonne distance, et arriver à trouver... Donc il y avait un vrai langage, donc il y avait un concept.
C'est vrai que nous, on n'utilise pas la danse pour dire où est le supermarché du coin. Hein.
C'est un langage différent. Voilà, il y avait un langage différent. Mais par exemple, on a découvert d'autres choses formidables. On a découvert que les oiseaux à berceau, ce sont des oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Pendant la période nuptiale, ils vont se mettre à peindre. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer des petits fruits, par exemple des mûres, par exemple des baies, et ils vont, avec leur bec, ils vont coller les couleurs des fruits sur les herbes pour faire venir, pour faire une espèce d'œuvre d'art comme ça. Ce n'est pas un nid, mais c'est juste pour attirer les femelles, leur montrer comme en fait ils sont beaux, qu'ils ont un beau goût artistique quelque part.
Donc on a des oiseaux artistes en fait.
On a des oiseaux artistes qui vont récupérer aussi tous les objets qui sont en lien avec la couleur qui les intéresse, parce qu'en fonction des individus, ils ont des couleurs qui les intéressent. Donc il y en a, par exemple, il adore le bleu, il trouve une brosse en bleu dans un jardin, il la récupère et il va mettre tous les objets bleus qu'il trouve, il les met autour de l'endroit où il veut amouracher.
Et en plus, ils font du recyclage, ces oiseaux. Ils sont bien plus avancés que nous, hein.
Voilà. Donc ça c'était les premières approches. Mais les explications apportées par ces éthologues étaient toujours, par exemple, on sait comment fonctionne, par exemple, maintenant, l'oie, on sait comment fonctionne le cheval. On connaît tout de A à Z, son comportement, leurs attitudes en société, comment ils vont se reproduire, comment ils vont aller se nourrir, etc. Sauf que on pensait à ce moment-là que tous les chevaux sur la planète entière, ils fonctionnaient comme ça. Que toutes les oies sur la planète entière, elles fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore la notion d'individu.
C'est vrai que nous, on parle de personnalité chez les humains, donc vous êtes en train de dire qu'il y aurait des personnalités chez les animaux.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, très récemment, c'est vraiment les années 90-2000, que, un petit peu plus tôt, parce qu'il y avait justement les premiers qui sont allés sur le terrain, ce sont d'ailleurs des femmes, qui sont allées sur le terrain et qui ont avec Jane Goodall, avec Diane Fossé, qui sont restées pendant des années et des années entières. Alors Jane Goodall avec les chimpanzés, Diane Fossé avec les gorilles par exemple, ou Berute Galtica avec les orangs-outans, et qui en fait sont restées sur le terrain et ont donné des prénoms aux animaux qu'elles étudiaient, et en fait se sont rendu compte qu'ils avaient des comportements, des évolutions complètement différentes, qu'ils avaient tous des degrés d'intelligence différents, des approches différentes, des sensibilités différentes, et du coup, qu'est-ce qui est arrivé? L'individu, la politique, la culture. Par exemple, un chimpanzé qui, chez Jane Goodall, est arrivé et qui a fait un diktat devant elle. C'est-à-dire qu'il a récupéré sur son camp de base, son bivouac, des bidons. Lui, il n'était pas plus fort, il était plutôt gringalet. Donc c'était pas le plus fort là qui gagnait, c'est qu'il a récupéré des bidons et il est rentré chez lui en tapant les bidons contre eux. Il a fait peur à tout le monde, il a fait peur au grand dominant et c'est lui qui est devenu le chef en fait de la bande. En fait, on avait affaire à un diktat, il avait une stratégie pour devenir lui chef de cette société-là. Voilà, des choses incroyables. Après, on avait aussi par exemple chez d'autres singes qui sont au Japon, on avait découvert que... sur un côté d'une île où il y avait des chercheurs qui leur donnaient régulièrement des pommes de terre, ils étaient au bord de la mer. Et on s'est rendu compte qu'ils allaient laver les patates. Donc, ils allaient laver les patates et que les patates, du coup, étaient salées. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ils allaient plus forcément pour laver les patates, mais ils allaient pour saler les patates et manger les patates salées. Et ce comportement-là, il a été transmis aux enfants, petits-enfants, etc. Et de l'autre côté de la colline, alors qu'il y a aussi une mer... qu'on leur donne aussi des patates, etc. Et que c'est la même espèce, eh bien, ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence en fonction des endroits, et donc c'est-à-dire qu'il y a des évolutions différentes, et donc du coup, il y a une histoire.
Alors justement, moi j'en viens à quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que les enfants de tout à l'heure ont vraiment parlé d'évolution, comme s'il y avait une progression, comme s'il y avait un sens qui allait vers du mieux, vers une amélioration. Alors, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, justement, l'évolution, c'est le grand sujet, parce que eux, en effet, ils sont là en train de dire, oui, nous sommes des animaux. A priori, ça sert d'être un constat qui est très accepté, et c'est déjà...
un grand pas.
Un grand pas, on peut dire, dans l'histoire des idées. Mais ils disent, on est des animaux, mais on a évolué. Comme si les autres, ils n'avaient pas évolué, comme si les autres, ils n'avaient pas eu une histoire. Comme si les autres, eux aussi, ils venaient pas des fins fonds des âges, de la cellule que nous avons tous en commun, la petite molécule que nous avons tous en commun comme ancêtre, et qu'ils n'aient pas aussi toute une grande histoire avec des grandes péripéties.
Des empereurs et des diktats.
Des empereurs et des diktats, tout à fait. Qui ont fait que les singes d'aujourd'hui, les crabes d'aujourd'hui, les sauterelles d'aujourd'hui, sont pas les sauterelles d'avant, sont pas les... Hein, ils ont eux aussi leur histoire, ils ont aussi évolué.
Donc sauf, elles aussi, elles ont évolué.
Sauf que l'évolution, il y a un problème avec ce mot. L'évolution fait tout de suite penser à Darwin, évidemment, puisque c'est lui qui l'a amené à travers la sélection naturelle. Et lui, il parlait pas d'évolution. Parce que l'évolution, en fait, ça sous-entend le fait qu'on va vers quelque part. Comme si, en fait, il y avait un sens.
Une destinée, un tracé.
Un dessin. Comme si on allait vers quelque part. Mais lui, il a démontré avec la sélection naturelle, Darwin, que non. il n'y avait pas de destinée, ce n'était que le hasard, le chaos, c'est-à-dire que la nature, ou à l'époque c'était Dieu, n'a pas d'objectif. Tout peut arriver à tout instant. Voilà. Et à partir de là, donc du coup, on revoyait tout, c'est-à-dire que alors que nous sommes des animaux justement avec une caractéristique qui va être l'intelligence, par exemple, on a une tendance à vouloir donner du sens à tout. On veut donner du sens. Et nombreux intellectuels passent leur temps dans nos sociétés à donner du sens à des choses qui n'en ont même pas besoin. Ou il n'y en a même pas.
Oui, mais c'est peut-être ce qui nous construit aussi de donner du sens aux choses.
Tout à fait. Sauf que la question, donc maintenant, c'est de se dire, alors l'intelligence, est-ce que ce serait le propre de l'homme? Est-ce que ça nous met du coup au-dessus de tout le monde? Mais si on se met dans une perspective qui n'est pas de, justement centrée sur l'humain, en cherchant à savoir qu'est-ce qui nous met, nous, au-dessus des autres, mais de, par exemple, dans une conception beaucoup plus sur la sélection naturelle, de savoir qui c'est qui va survivre, qu'est-ce qui va permettre à une espèce de survivre, et peut-être que l'intelligence n'est pas forcément la meilleure, puisque l'intelligence, on se rend compte aujourd'hui, elle nous amène à des pollutions, elle nous amène à des destructions, elle nous amène à plein de catastrophes amenées par l'homme, qui vont peut-être détruire, en tout cas qui détruisent un grand nombre d'espèces du vivant, et qui va nous amener à l'autodestruction. Donc est-ce que l'intelligence est véritablement quelque chose d'important en fait dans le vivant? Parce que à côté, peut-être que les mouches qui n'ont pas une forme d'intelligence à la nôtre, propre à la nôtre, mais elles ont quelque chose d'autre, elles ont la capacité par exemple de se coller au plafond. Nous, on n'a pas du tout la capacité de se coller au plafond. Pourtant, c'est génial et ça peut être très très pratique. Et peut-être que dans l'évolution et comment le monde va se transformer, notre environnement va se transformer, peut-être que se coller au plafond, ce sera beaucoup plus important que d'être intelligent.
Donc ça voudrait dire que finalement, on a développé notre intelligence à un temps T parce qu'il y a un moment donné, on a eu besoin de ça pour continuer à faire survivre notre espèce. C'est ça que vous dites ?
Voilà, c'est-à-dire que la sélection, en tout cas en nous concernant, a fait que ceux qui pouvaient se reproduire, pouvaient continuer, étaient des gens qui étaient dotés d'une certaine intelligence. Et chez les mouches, c'était celles qui arrivaient à se coller au plafond. Je prends un exemple comme ça pour rigoler, mais par exemple le scorpion aussi, lui, c'est intéressant parce que il résiste au nucléaire. Peut-être que dans la sélection naturelle, ça va être beaucoup plus intéressant de résister au nucléaire plutôt que d'être intelligent. Ça dépend comment on se positionne. Voilà. Voilà, un petit peu les grandes questions. Mais c'est cette histoire toujours de changement de point de vue, et c'est aujourd'hui, on en est là, on en est, et pourtant, les enfants, eux, ils ont cette spontanéité de dire, oui, ben en fait, on est tous des animaux différents, on est certains animaux, il y en a qui ont évolué dans leur sens à eux, et on sent qu'ils ont compris ça. Et cette histoire de subjectivité qui, en fait, fait l'objet aujourd'hui de grandes recherches. Il y a une jolie anecdote que je voudrais dire. C'est, à un moment donné, des chercheurs ont mis un chimpanzé dans une pièce. Ils ont mis des bananes au plafond. Et ils lui ont mis... Sauf qu'ils ne pouvaient pas les attraper. Et ils ont mis un bâton à côté pour voir s'il allait utiliser le bâton pour aller chercher les bananes. C'est-à-dire la conceptualisation d'un outil, etc., etc. Donc, ils cherchent ça. Ils enferment le chimpanzé. Et ils avaient prévu de regarder donc le chimpanzé à travers le trou de la serrure. Donc les deux, ils mettent le chimpanzé, ils ferment la porte. Et puis donc il y en a son collègue qui dit, vas-y regarde dans le trou de la serrure. Donc il regarde dans le trou de la serrure et l'autre il se relève et il dit, ben je vois rien. Et l'autre il dit, pourquoi tu vois rien? Pourtant on a bien vérifié qu'il y avait un trou. Et il dit, ben oui mais je vois rien. Mais re-regarde, il re-regarde. Et en fait qu'est-ce qu'il voit? Il dit, tu sais ce que j'ai vu? L'œil du chimpanzé. C'est-à-dire que lui nous regarde. Et alors là, d'un coup, tout explosait, parce qu'en fait, ce qui l'intéressait, lui, le chimpanzé, c'était pas du tout les bananes. Ce qui l'intéressait, c'était nous. Donc il est en train de nous regarder, nous, et de nous étudier, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va derrière la porte? Et là, d'un coup, tout explosait.
C'est une belle pirouette faite aux humains, hein.
C'était une très très belle pirouette. C'est vraiment l'histoire de réussir à changer de point de vue.
Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous, étions en liberté, mais ils sont arrivés. Et la fleur est en pot, et l'oiseau est en cage, et nous, en numéro, car ils ont inventé prison et condamné, et casier judiciaire et trou dans la serrure. et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés bardés d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est un coup de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils ont civilisé les singes, les singes, les singes de mon quartier, les singes de mon quartier.
Alors, qui sont les singes? Qui sont les civilisés? Eh bien, peut-être qu'en langage grenouille, on aura quelques réponses. Connaissez-vous Verdurette? Ah, moi je dis qu'elle vaut le détour, Verdurette, un détour littéraire signé Claude Bougeon avec son album Pauvre Verdurette. Dans une mare au bout d'un pré, une colonie de grenouilles menait une vie tranquille. Elle ne gênait personne. À toute heure du jour ou de la nuit, duo, quatuor, chorale pouvaient chanter à tue-tête sans nuisance pour autrui. Personne ne les dérangeait. Seule une vache venait s'abreuver à la mare dans l'indifférence complète. Les grenouilles ne s'intéressaient plus aux bovidés depuis bien longtemps. Elles connaissaient toutes par cœur l'histoire racontée 100 fois de cette arrière-arrière-arrière-grand-mère qui voulut se faire aussi grosse que le bœuf et qui finit si mal. Elles formaient une grande famille unie. Il y avait Georgette, Pierrette, Cousette, Bébette, Rosette, Claudinette et bien d'autres nénettes. Et puis, il y avait Verdurette. Depuis peu, elle faisait bande à part. Elle avait prêté l'oreille à des bruits, des rumeurs qui couraient sur les bords de la mare. On racontait qu'une de leurs cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné à un prince charmant. Pourquoi cela ne m'arriverait-il pas? S'était dit Verdurette. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'était et à quoi ressemblait un prince, mais elle attendait sa venue. Mais le temps passait, et rien ne venait. Verdurette décida alors de partir à la recherche du prince charmant. Elle quitta la mare, certaine d'aller au-devant du bonheur. Sa première rencontre fut un lapin. « Quoi, 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 quoi ?» lui dit-elle en le regardant dans le blanc des yeux. Ce qui, en langage grenouille, signifie « embrasse-moi ». Le pauvre lapin, qui ne comprenait rien, s'abstint évidemment du moindre petit câlin. « Rien à voir avec un prince charmant », se dit Verdurette en reprenant son chemin. Sa deuxième rencontre fut une cabine téléphonique. « Donne-moi un baiser », lui dit Verdurette dans son langage grenouille. Bien entendu, sa demande resta sans réplique. « Ceci n'est pas un prince », se dit Verdurette en se remettant en route. Sa troisième rencontre fut un vieil arrosoir. Naturellement, l'ustensile ne répondit pas à son espoir. « Alors, elle alla voir plus loin. Plus loin, elle fit sa demande à un marteau-piqueur, laissé là pour une pause. Nous savons qu'un tel outil n'est pas du tout un prince charmant. Elle le comprit aussi et alla voir ailleurs. Ailleurs, c'était un crapaud qui voulut, lui, l'embrasser absolument. Cela ne plut pas à Verdurette qui refusa obstinément, car ce n'était pas un prince charmant, évidemment. Sa sixième rencontre fut un tracteur. Il était grand, il était beau, il sentait bon le moteur chaud. Mais il resta sourd comme un pot à ses avances. Une telle indifférence montrait bien que ce superbe engin n'était pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait, elle crut le trouver dans ce point rouge à l'horizon qui fonçait droit sur elle. Mais Verdurette eut à peine le temps de s'écarter. Le bolide manqua l'écraser et lui envoya dans le nez une bouffée de gaz asphyxiant. Verdurette éternua, s'étrangla. « C'est un monstre, un dragon, cracheur de feu, un donneur de baisers fatal !» s'écria-t-elle, haletante en essayant de reprendre ses esprits. Très dépitée, elle se réfugia derrière une touffe d'herbe haute. Après toutes ses déceptions, elle commençait à regretter sa mare tranquille du bout du pré. Tout à coup, elle s'agita. Son petit cœur battait. Quelque chose lui disait qu'elle était au bout de sa peine. Un homme se dirigeait vers elle. Pleine d'espoir, Verdurette sautilla à sa rencontre. Elle se trouva rapidement à ses pieds et fit sa demande. « Quoi ? Embrasse-moi » cria-t-elle. L'homme baissa la tête, vit l'animal, se courba, le prit dans ses mains. « Oh, la jolie petite grenouille » dit-il. « Il va le faire !» pensait Verdurette. L'homme en riant la prit par la patte, la mit dans son chapeau et l'emporta dans sa maison. Il la plaça dans un bocal avec une petite échelle. Pauvre Verdurette, elle était condamnée à annoncer la pluie et le beau temps grimpant à l'échelle. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Un soir, Verdurette s'échappa, ploc, de sa prison de verre. Elle sauta de la table, ploc, rejoignit sa mare, ploc, et confia à ses compagnes. On n'embrasse plus les grenouilles de nos jours. Voilà, c'était Pauvre Verdurette, écrit par Claude Bougeon aux éditions L'École des loisirs. Alors vous l'aurez compris, si vous voyez une jolie petite grenouille verte qui vous fait les yeux doux, surtout, un peu d'empathie les amis, ne la faites pas vedette télévisée de présentation météo, mais donnez-lui un vrai baiser digne des plus grands films de cinéma, car qui sait si un jour vous ne succomberez pas à une princesse à la peau verte ou un prince qui croisse. Allez, à bientôt les petits dômes pour la prochaine émission des Oreilles Buissonnières. D'ici là, portez-vous bien et observez bien vos chats, vos chiens, vos poissons et vos grenouilles. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'était les Oreilles Buissonnières sur 99.2. Sylvère Petit, cinéaste animalier, Raphaël Terribélé à la technique et moi-même, Tonassienne Rank. À bientôt. Thank you.